Merci Pascal, parce que ça me donne des idées dans ce que j'ai envie de dire. Je suis toujours un peu à gueule trac avec ce truc en face de moi. Pas habitué. Mais... Toi aussi, oui. Vous savez que la parole de Dieu est merveilleuse. Vous savez que cette parole que Dieu nous a donnée, elle est curieuse, je dirais. Curieuse. Je trouve que c'est quelque chose, ce document qui commence donc à la Genèse et qui s'arrête à l'Apocalypse, qui est donc constitué de beaucoup de mots. Je ne sais pas le nombre de mots qu'il peut y avoir là-dedans, mais c'est un nombre de mots fini, pas infini. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens. Je dis, c'est curieux, cette parole de Dieu, il y a des liens dedans. Des liens, oui. C'est-à-dire, par exemple, imaginez, vous prenez par exemple le premier verset de la Bible qui est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Déjà, si vous le lisez la première fois, vous vous dites « Mais il y a les cieux, il y a la terre. Tiens, il y a quelque chose de particulier. Cet univers extraordinaire dont on ne connaît pas la dimension, enfin, ou à peu près, nous émerveille. C'est énorme. » Et puis, la terre. Il y a quelque chose de spécifique dans cette parole, déjà. Et puis, je vous ai dit, il y a des liens dans la parole de Dieu, mais c'est vrai que si on dit au commencement, ça nous fait penser à un autre verset. J'imagine que vous le voyez. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, en elle était la lumière, la vie, etc. Vous voyez ? Il y a un lien. Puis vous pensez à la lumière, vous dites, mais ah, ça me fait penser à un autre verset, ça me fait penser à ta parole est une lumière sur mon sentier. Vous pensez au sentier, puis tout d'un coup ça vous fait partir où? Je ne sais pas, sur les trois chemins. Et puis vous voyez, tous ces liens qu'il y a dans ces versets vous amènent quelquefois à devenir fou. Vous dites, mais ah, mais il y a encore un lien là, il y a un lien là. Et puis, vous êtes obligé de vous arrêter, parce qu'après, vous perdez un peu de cohérence dans votre, pas jugement, mais enfin, dans votre façon de lire la Bible. Il faut bien, à un moment, dire, je vais m'arrêter, je vais quand même lire ma Bible, hein, de manière suivie, parce que sinon, je suis perdu dans tous ces liens. On peut se poser une question, et je vous pose la question. Est-ce que le nombre de liens qu'il y a dans ce livre qui est fini, qui a un nombre de mots, fini, est-ce que le nombre de liens est lui aussi fini? Est-ce qu'éventuellement ce nombre de liens serait infini? On n'en sait rien. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que un jour, en lisant l'évangile, j'ai trouvé des liens, forcément. Et ces liens, non pas, parce que là, bon, on passe par exemple du verset 1 de la Genèse au verset 1 de l'évangile de Jean, et puis on s'en va là, on s'en va là. Mais quelquefois, vous avez des liens entre un épisode de la Bible et l'épisode juste suivant. Et c'est là que j'ai envie de parler avec vous de l'évangile de Luc au chapitre 10. Quelque chose qui m'a interpellé, je me suis dit, c'est, il y a un lien. Alors dans l'évangile de Luc au chapitre 10... Vous avez, on a évoqué ça déjà une fois, vous avez les 35 équipes d'évangélistes, si on veut, puisque l'évangile n'était pas encore annoncé de manière complète. En tout cas, il y a des disciples de Jésus qui s'en vont, deux à deux, et puis qui vont annoncer le message de l'évangile qui est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et puis, vous savez, au verset 17, ce qui nous est dit, c'est qu'ils sont revenus après leur travail, après leurs efforts de propagation du message de Jésus. Et ils étaient émerveillés, ils étaient un peu foufous, quoi. Ils étaient tellement contents de ce que les démons étaient chassés en leur nom. Imaginez que vous ayez ce don-là de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ça. Ça ferait drôle, n'est-ce pas, hein? Alors, je vous imagine, par exemple, je vous imagine là-dedans, hein? On serait, moi, je m'imagine comme ça. Je dirais, mais Seigneur, tu te rends compte, tu m'as donné un don extraordinaire et tu vois ce que ça fait, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et puis, vous verrez, hein, dans cet évangile, comment Jésus répond à leur enthousiasme. Hein? Cet enthousiasme qui est un enthousiasme, pas enfantin, mais un petit peu comme ça. Je vais vous donner un peu une image. Imaginez que vous avez un enfant, vous pouvez imaginer un petit garçon, une petite fille qui vient et dit, papa, papa, tu sais maintenant, je sais pédaler à vélo avec deux roues seulement. J'ai plus les stabilisateurs, vous savez. C'est merveilleux, tu te rends compte, papa? Et puis le papa, bien sûr, très content, il dit, mais oui, fiston, oui, ma fille, c'est merveilleux de ce que tu sais pédaler. Tu sais, un jour, tu vas passer le permis de conduire. Et puis tu pourras conduire la voiture de papa peut-être et de maman. Tu crois? Mais oui, bien sûr. Mais, fiston, ma fille, tu sais, rouler à vélo c'est bien, mais il faut un objectif. Après tu auras une voiture, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la voiture? Tu vas aller où? Ce qui est intéressant pour toi, c'est pas simplement de savoir pédaler, de savoir conduire, c'est d'aller quelque part. Et où est-ce que tu veux mettre ton quelque part? Quel est ton objectif dans la vie? Je crois que déjà qu'on peut en parler aux petits garçons ou aux petites filles, tu sais. Où est-ce que tu veux aller? C'est bien de savoir pédaler, de savoir prendre la rue principale. Attention, sur la droite, hein, bien sûr. Mais tu vas où? Et nous voyons ça ici aussi dans l'Évangile. C'est pas, nous voyons ici, verset 17 du chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On a déjà évoqué ça aussi, c'est que nous n'avons aucune perception de ce qui se passe dans les cieux. Nous ne savons pas. Et parfois, dans la parole, et là c'est un lien, c'est particulièrement un lien, c'est que nous voyons ici dans ce verset 18, que quand on fait quelque chose de simple, de pédaler, enfin je veux dire d'annoncer l'évangile, par les calendriers, par n'importe quelle situation, on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Et tout d'un coup, on voit un indice, quelque chose. Et là, Jésus dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Et vous avez certainement d'autres liens que vous allez trouver dans la Bible, où vous voyez que tout d'un coup, on voit percevoir un peu ce qui se passe dans les cieux. Du genre, par exemple, Daniel voit arriver l'ange qui lui dit, tu sais, j'ai combattu pendant 21 jours contre le chef de la Perse. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef, le chef d'Israël, le chef dans les cieux. Oh, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne comprend pas bien. Mais on sait qu'il y a une bagarre, quelque chose de terrible. Ici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, verset 18. Voici, je vous ai donné même le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Hein? Tu sais, tu peux pédaler c'est ce que dit Jésus, tu sais mon petit, tu peux rouler à vélo, hein, tu peux faire des choses pour moi. Hein, mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour moi, mais c'est surtout que ton nom, il est inscrit dans les cieux. C'est merveilleux. Donc, que l'on se sente important, ou pas important, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nos noms sont écrits dans les cieux. Alors, excusez-moi, je suis en train de faire beaucoup de digressions, parce que moi, j'ai tendance, c'est un défaut à moi, de faire justement plein de liens. Hein, je pense que vous aussi vous avez ce genre de défaut. Vous prenez votre parole de Dieu, la Bible, et puis vous trouvez un lien, et puis vous partez, et puis où est-ce que j'en étais déjà? Ah non, j'étais dans le décalogue, et puis je me retrouve ailleurs. Hein, ça vous arrive. Mais c'est aussi riche. Hein. Et donc ici, on va voir qu'il y a des liens. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le titre de cette méditation, c'est le bon samaritain. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le bon samaritain et ça. Ouais, si, je pense. Je pense. Donc vous voyez l'émerveillement de ces jeunes disciples qui reviennent en disant « Nous avons chassé des démons ». Puis Jésus dit « Oh oui, c'est bien ». Mais ce qui est bien, c'est que ton nom, il est dans les cieux. Ça, c'est merveilleux. Ça vous est déjà arrivé, non? Peut-être que ça m'est déjà arrivé de dire, oh là là, oh, j'ai fait des choses pour toi, Seigneur, hein? Oui, mais comme on nous l'a dit tout à l'heure, un serviteur, il est inutile. C'est pas qu'il est inutile dans le sens que le Seigneur veut nous rabaisser, mais il veut nous replacer dans ce qui est important, notre nom, et dans les cieux. Voilà l'émerveillement de ces gens. Et Jésus rétablit les choses. Et puis, vous avez vu, au verset 19, il nous est dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur plein de choses pas très propres. Hein? Et il leur dit, allez-y sans peur, allez-y, allez-y. Vous êtes avec moi, vous pouvez y aller. Enfin, c'est vrai que quand on s'aventure dans un terrain spirituel inconnu, on se dit, il y a peut-être des choses dangereuses, et certainement que oui, il y a des choses dangereuses, mais le Seigneur est avec nous. C'est ce qu'il est dit là. Voilà. Nos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que c'est cet objectif-là qui nous intéresse? Est-ce que nous sommes contents d'être sur terre? Certainement. De jouir de la vie, c'est bien. Et le Seigneur se réjouit de ce que nous nous réjouissions de vivre dans cette vie. Mais ce serait un peu comme si nous étions en train de pédaler sur un vélo sans savoir où on va. Et voilà que le Seigneur nous replace dans ce contexte de la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celui qui faisait qu'Abraham, en sortant de Ur en Chaldée, suivait un chemin qu'il n'a jamais trouvé sur terre, mais qu'il a toujours voulu trouver et qu'il trouvera un jour à la résurrection. La cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ne tournons pas le dos à cette cité céleste, mais orientons notre cœur vers cette cité céleste. Quand on est chrétien, on le fait spontanément parce qu'on a le Saint-Esprit en soi. Et on a toujours envie de lire la Bible. Enfin, théoriquement, on a toujours envie de lire la Bible. Voilà. Vos noms sont écrits dans les cieux. Et alors Jésus est tellement heureux de cela. Tellement heureux de voir que ces petits-enfants spirituels qui sont là en train de s'exciter d'avoir chassé des démons, il les voit tellement heureux d'être partis dans cette optique que lui-même est heureux. Hein, et il dit au verset 21, à ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché. » Que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants, aux enfants. Hein, alors, on peut toujours se dire, oui, mais d'accord, je vais être comme un enfant.
Je vais parler comme ça et ça sera trop bien, parce que je serai un enfant.
Non, c'est pas ça qui est dit ici, c'est d'être comme un enfant, c'est-à-dire réceptif à l'enseignement que les parents vont donner. Et que le Père va donner, être réceptif, goûter à cet enseignement que le Père, que le Papa, que la Maman vont donner. Et vous savez, vous connaissez des enfants comme ça. Je crois que j'ai dû l'être comme ça aussi. Papa, tu peux me laisser pédaler sur mon vélo, j'ai plus besoin des roues, tu vois. Mais non, puis paf, l'enfant se casse la figure, il se fait bien mal et il dit, je suis pas encore arrivé. C'est un peu ça ce qui nous arrive, ce qui m'était déjà arrivé, n'est-ce pas? Je te loue, Père, verset 21, de ce que tu l'as voulu ainsi. Il y a dans le projet de Dieu, depuis toujours, l'idée de dire, ce n'est certainement pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Hein, vous connaissez Zacharie ? Zacharie, chapitre 15, verset 6, il dit, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Vous savez dans quel contexte c'était fait, cela ? Zorobabel, hein, et puis Esdras, hein, c'est ça ? Enfin bon, le grand... J'ai oublié le nom, mais Zorobabel revient, il est né à Babel cet homme, il n'a pas connu Israël, il a été conçu et il est né à Babel, à Babylone, dans l'endroit qui est le symbole du monde et de sa perversion, n'est-ce pas? Et il va revenir en Israël, et ils vont construire un temple, puis le temple il est minable, petit, il n'a pas de beauté comme du temps de Salomon, et beaucoup de gens sont tristes et se disent, mais la beauté de Dieu, la beauté de d'où cet édifice, etc. C'est pas terrible. Et puis, Zacharie dit non, c'est pas par ma puissance, c'est pas par ma force, c'est pas des choses qui se voient, c'est par mon esprit. C'est ce qu'il y a au fond de vous qui va vous faire grandir, qui va faire que vous serez vraiment le peuple de Dieu. C'est pas par des systèmes ou des structures, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et on le voit ici, dans ce verset 21, « Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ce ne sont pas les intellectuels de la Torah qui vont être les vecteurs de la vérité. Ce ne sont pas les gens qui connaissent beaucoup et qui ont accumulé beaucoup de connaissances et de puissance intellectuelle qui feront que ton royaume viendra. C'est par des enfants. Par des enfants spirituels, c'est-à-dire des enfants qui sont enfants du Père et qui sont enfants dans leur désir de comprendre ce que le Seigneur veut. Et alors c'est pour ça que nous, on est comme ça, des gens, hein, je ne suis pas le seul, à faire des liens avec les versets et à se balader dans la Bible et à ne jamais s'arrêter. Et on se dit, mais Seigneur, ça ne s'arrêtera jamais. Oui, certainement que ça ne s'arrêtera jamais, mais ça nous encourage. Donc, encourageons-nous mutuellement à nous créer des liens affectifs, mais des liens aussi à la parole de Dieu. Hein? Je te loue, Père, de ce que tu viens voulu ainsi. Et puis, après, Jésus ramène des choses importantes à la tête de ceux qui écoutent. Et il y en a un qui écoute là. A priori, il y en a un, je pense, qui écoute. Il y a un docteur de la loi qui se pointe là-dedans. Il a parlé, mais en public, là. Hein? Et il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, verset 22. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père et celui, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus manifeste là qu'il est le Dieu incarné et qui vient dire ici, moi, j'ai le pouvoir de transmettre qui est vraiment Dieu. On est en Israël hein, pourtant, hein. Donc là, tout le monde connaît Dieu, bien sûr, puisque tout le monde, depuis son enfance, va au catéchisme, enfin, le catéchisme de là-bas. Et lui, il dit, non, c'est moi qui vous le donne, c'est pas vos structures. Ce n'est ni hein, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et il veut manifester ici que c'est par lui que l'on va comprendre la vie éternelle, enfin, la raison de notre existence, la je vais oser dire la pierre philosophale, vous savez, ce genre de truc occulte que les scientifiques moyens du Moyen-Âge cherchaient le secret de tout. Hein. Aujourd'hui, vous avez des scientifiques qui ne font pas mieux, hein. Ils sont tout le temps en train de chercher pour savoir le secret de tout. C'est pas... Et nous, là, c'est ici. Et en se tournant vers les disciples, verset 22, il leur dit en particulier, oh, vous avez de la chance. Vous imaginez pas, vous ne percevez pas, et ça c'est pour nous aussi je crois, je ne perçois pas. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu, enfin ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous voyez, cette dimension... On ne sait pas ce qui se passe dans les cieux. De temps en temps, on a un verset qui nous dit que Satan tombe du ciel comme un éclair, etc. Mais également, pour nous, notre perception des moments que nous vivons est toujours déphasée par rapport à ce que c'est vraiment. Hein, c'est ce que dit ici Jésus. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Vous imaginez pas, vous êtes devant le Fils de Dieu, vous êtes devant le Dieu incarné, il est en train de vous transmettre ce qu'est le message de Dieu et le projet qu'il a pour vous, pour l'éternité. Vous ne vous rendez pas compte, hein, c'est ce qu'il leur dit, vous ne vous rendez pas compte. Mais je ne vous en veux pas, enfin, on sent bien qu'il dit, il dit pas ça en reprochant, et il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes, de rois, David, on désirait voir ce que vous voyez, Salomon, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Nous avons la chance d'avoir la parole de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas entendu Jésus de vive voix, mais nous avons toute la parole de Dieu. Imaginons ces gens à l'époque qui cherchait besogneusement, je ne sais pas si c'est français, en pédalant, l'origine, la fin des choses, la vie éternelle, l'héritage, ce que Abraham recherchait et qu'il n'a jamais vu. Il nous l'est dit dans Hébreux 11, ils ont tous cherché, ils étaient là à chercher. Et voilà ce que dit Jésus. Donc c'est important. Et là, il y a un docteur de la loi, il en a marre. Il se lève. Lui, depuis sa jeunesse, il a fait l'université, il a fait la licence de la Torah, le doctorat de la Torah, le hyper-doctorat de la Torah. C'est un docteur de la loi et il a cherché, cherché, et peut-être avec conviction. Et il y en a, du temps du Seigneur, qui était comme ça, probablement. Théologiquement, intellectuellement, avec ses efforts pour comprendre, il ne comprenait pas. Parce qu'il dit, verset 25, un docteur de la loi se leva. Il dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous imaginez ça, hein, quelqu'un qui vient me voir, moi qui suis un simple chrétien sans prétention, puis un grand théologien qui n'y connaît rien et qui dit « Mais la vie éternelle, ça, c'est comment qu'on l'a ?» Et c'est un peu ça. Et là, devant Jésus, hein, on voit. Ça, ce sont des questions que beaucoup de pharisiens à l'époque de Jésus posaient. Quand ils posaient une question, c'était pour le faire tomber, parce qu'ils n'étaient pas très bienveillants avec lui. Mais je suis persuadé qu'il y avait derrière ça aussi un désir de connaître, une curiosité de savoir. Le tribut à César, par exemple, c'est vraiment là une malhonnêteté évidente, patente. Hein. Ils veulent le faire tomber, parce que s'il répond A, ce sera B, et s'il répond B, ce sera A. Et ils se font avoir, parce que Jésus leur répond, et ils sont tellement émerveillés de la réponse, émerveillés, enfin, surpris. Nous, nous sommes émerveillés de la réponse. Mais ils sont éteints, ils ne savent plus quoi dire. L'empreinte de la pièce, et vous, vous êtes l'empreinte de Dieu. Alors, quand ils ont compris ça, ils ont vu que Dieu était devant eux, hein. Voilà. Alors ce docteur de la loi se leva et il dit, donc voilà, je veux hériter de la vie éternelle, mais je ne sais pas comment. Je te pose une question piège. Il ne le dit pas, mais Jésus le sait, et il répond, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et puis donc ce docteur de la loi répond, voilà, il répond, l'aboutissement de toutes les études de la Torah a mené forcément tous ces intellectuels à comprendre que ça dépassait la Torah, ça dépassait les Écritures, c'était ceci, aimer. Aimer Dieu, alors aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. 8 points importants. Et on peut supposer que cet homme avait réussi, probablement, presque tous les points. Il y avait un point qui l'embêtait. Il y arrivait aussi pour ce point-là. Mais il fallait donner une petite interprétation à ce que disait Dieu. Et ce que dit Dieu, c'est son prochain. Et qui est mon prochain? Est-ce que c'est un Romain? Est-ce que c'est un Samaritain? Est-ce que c'est un chien d'étranger? Est-ce que c'est un infidèle, un impur, une prostituée, un voleur, etc.? Est-ce que tout ça, ce sont des prochains? Et alors, on aurait pu s'imaginer que Jésus lui dise, comme il a dit dans Marc chapitre 12, verset 34, il dit à un homme qui avait donc réfléchi à ces choses, parce que il y a d'autres docteurs de la loi qui avaient réfléchi, et qui dit, en somme, hein, dans Marc, il nous a dit, en somme, aimer Dieu, aimer son prochain, adorer Dieu, etc., c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus lui dit, toi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc Jésus voyait des choses, et il voyait qu'il y avait des gens qui cherchaient l'héritage, la vie éternelle, et qui étaient prêts, tout prêts. Et on sait qu'après sa mort, beaucoup se sont repentis, beaucoup de pharisiens sont devenus chrétiens, Après, ça a créé des problèmes parce qu'on sait que beaucoup voulaient que les rites judaïques continuent. Et on peut supposer que ce sont beaucoup de pharisiens qui faisaient pression pour ça. Mais beaucoup de pharisiens se sont convertis après. À tel point qu'au moment de la Pentecôte, enfin après la Pentecôte, il y avait plus de chrétiens que de pharisiens. Le parti des pharisiens était tombé en nombre. Hein. Ouais. Merveilleux. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors là, Jésus, il aurait pu partir sur une dialectique compliquée en lui expliquant qui est le prochain, ceci, cela. Et Jésus lui donne une histoire. On a l'habitude de dire que c'est une parabole. Et là, j'ai une question à vous poser, et je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment une parabole? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a réellement été, qui a été vécu par quelqu'un? Est-ce que même ce docteur de la loi n'est pas impliqué dans cette histoire? On n'en sait pas. On dit c'est une parabole. Bon, c'est une parabole, peut-être. Je ne sais pas. Alors, dites-moi si ça vous dit de me le dire. Si réellement ça c'est une parabole ou pas, cette histoire du bon samaritain que nous allons méditer maintenant. Il faut que j'aille vite. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et lui a voulu se justifier, parce qu'effectivement, il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que moi non plus, je peux pas parfois m'apercevoir que le Seigneur me reprend quand un tel doit être mon prochain, et puis que aimez vos ennemis comme hein, aimez vos ennemis, enfin ce genre de choses. Hein. Jésus lui répondit donc, non pas en dialectique, mais en lui donnant une histoire. Et cette histoire, elle est curieuse, parce que elle a quelques symboles dedans. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Un homme descend de Jérusalem vers Jéricho. Ça, c'est vraiment curieux. C'était normal dans l'époque, il y avait un chemin très rapide et un chemin un peu plus lent. Le rapide était très dangereux et les brigands étaient toujours cachés quelque part dans les rochers et réussissaient à se faire fortune avec la tristesse qu'ils amenaient sur les voyageurs. Mais en particulier, quelque chose qui me touche, c'est que cet homme tourne le dos à la cité céleste. Il tourne le dos à la cité céleste pour aller vers Jéricho, la cité inexpugnable, celle qui est solide, celle qui est aux doubles murailles, le système technique, si vous voulez, l'administration, le fonctionnement sans Dieu. Jéricho, c'est vraiment le symbole du monde dans sa force et dans son apparence indestructible. Il tourne le dos vers la cité céleste qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, Jérusalem, la Jérusalem céleste. Mais là, il y a quand même un symbole là-dedans qui est intéressant à mentionner. Et puis voilà, vous savez ce qui se passe, c'est que dans la vie, il n'arrive pas forcément que des bonheurs, il arrive aussi des malheurs. Et forcément, quand on côtoie les gens du monde et qu'on côtoie n'importe qui, il arrive qu'on tombe au milieu des brigands qui ne s'intéressent pas à vous et qui ont comme intérêt de vous dépouiller de la meilleure façon qui soit. Et quand ils ont fini de dépouiller le pauvre homme qui est pratiquement tout nu, ils vont encore trouver que ce n'est pas assez et ils vont le laisser à demi-mort. Hein ? Il y a cette notion qu'on trouve dans ce monde terrible, qui est qu'on va se pomper la vie de l'autre pour essayer de construire sa vie à soi. C'est terrible. C'est le système de ce monde. À demi-mort. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un religieux qui passe. Et vous savez ce qu'il fait, ce religieux? A priori, c'est quelqu'un qui regarde vers Jérusalem. Eh bien non, il a le dos à Jérusalem et il descend vers Jéricho aussi. On a bien aussi là le symbole de beaucoup de systèmes religieux qui tournent le dos délibérément à Jérusalem pour s'appuyer sur les systèmes de ce monde. Un autre, un lévite, passe. Et ce lévite, on ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Mais enfin, vous voyez, ils avaient chacun de bonnes raisons de ne pas s'occuper de cet homme, parce que s'il était mort, forcément il serait impur pendant 7 jours, il ne pourrait pas fonctionner, puisque le sacrificateur doit faire ses ablutions, etc. Et au bout de 7 jours, il peut refonctionner. Hein, vous savez, donc il y a des problèmes qui font que on ne va pas s'occuper du pauvre du chemin, parce que ça va nous souiller. Et puis voilà, un Samaritain voyageait par là, lui aussi. Le hasard, avec un grand D. Le hasard avec un grand D. Et qu'est-ce qu'il fait ? La première chose, la première démarche de ce Samaritain, c'est qu'il est ému de compassion. C'est-à-dire que cet homme, il a quelque chose encore de Dieu en lui. Les autres se sont construits dans leur fonctionnement en oubliant ce que Dieu est, compatissant, plein d'amour. Pourtant, il était marqué, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Et on sent que la notion, le résumé de toute la Torah, c'est aimer. Et voilà que c'est un Samaritain, figurez-vous, quand même. Jésus, il dit quand même, il y va quand même fort. Hein. Il aurait pu prendre quand même un Lévite ou un sacrificateur, quoi. Mais non, 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 il va prendre un Samaritain, un chien d'étranger. Et en plus, quelqu'un qui a été rapatrié de là-bas pour venir dans notre pays et pour apprendre notre religion. Ils prétendent que c'est chez eux qu'il y a la bonne religion. Et puis en même temps, ils ont mélangé tout ça avec leurs anciens rites. Bon. Eh bien, c'est lui qui va témoigner de l'amour de Dieu. Il s'approche, verset 34, il bande les plaies, il verse de l'huile, du vin, et le met sur sa propre monture, il le conduit à l'hôtellerie, il prend soin de lui, et le lendemain, il tire 2 deniers de sa besace, 2 jours probablement d'entretien, il les donne à l'hôte, et il dit, surtout, n'oublie pas de t'occuper de lui à ma place. Je ne peux pas, moi, je m'en vais, j'ai des affaires. Hein. Et ce que tu dépenseras de plus, je te donnerai à mon retour le 3e jour. Tiens, le 3e jour, tiens, c'est curieux. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Oh non, Jésus, vraiment là, t'exagères quand même. Tu aurais pu dire au moins qu'il y avait des brigands. Ce sont des prochains aussi. Et puis il y a l'hôtelier aussi qui pourrait faire bonne figure auprès de ces choses. Voilà que Jésus lui donne 3 solutions au docteur de la loi. Il lui dit, voilà, il y a un sacrificateur, un lévite ou un samaritain, choisi. Mais le prochain, c'était pas lui. Le prochain, c'est celui qui était pratiquement mort. Pourquoi Jésus dit-il au docteur de la loi que le prochain de ce docteur de la loi, ce sont ces 3 individus, ça pourrait être d'autres, hein. Il lui montre, Jésus, à ce docteur de la loi, que le prochain, le vrai prochain, c'est le Samaritain. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et il dit une chose au verset 36 qui est curieuse. Hein. Il dit, voilà, le prochain, c'est celui qui s'est occupé du blessé. Moi, logiquement, dans la parabole ou dans cette histoire du bon Samaritain, le prochain, c'était celui qui était blessé et qu'il fallait soigner. Si tu aimeras ton prochain, ben tu descends de ton âne ou de ta monture et tu t'occupes de ce blessé. C'est lui ton prochain, tu vas l'aider. Non, le prochain, c'est le Samaritain. Ça me fait dire une chose, c'est que nous devons nous émerveiller de la bonté que nous voyons chez nos compatriotes, chez ceux qui ne sont même pas chrétiens. Et ça devrait nous émerveiller de voir que l'amour de Dieu existe encore dans ce monde, même chez ceux qui ne sont pas tournés vers le Seigneur. Ça doit nous émerveiller et nous amener à les aimer et à dire, Seigneur, il y a des gens dans le monde, ils sont plus amoureux des autres que moi je ne le suis pour eux. Je te demande pardon, Seigneur, parce que tu les mets sur mon chemin pour que je m'aperçoive qu'ils ont quelquefois, on dirait, plus d'amour que moi, qu'il me dit chrétien. Et vous voyez, il nous est dit que dans Matthieu chapitre 21, verset 43, qu'une nation, va rendra des fruits meilleurs que ceux d'Israël. Vous savez, c'est les paraboles des vignerons. Ces tristes vignerons, ils vont jusqu'à tuer le fils du propriétaire pour penser s'accaparer le bien du propriétaire. Et Jésus dit, mais attention, c'est la fin. Je crois que c'est le moment où une nation va être créée par Dieu qui donnera le véritable fruit. Tout ça, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur l'enthousiasme, sur la force de notre amour pour Dieu. Cet amour est en germe en beaucoup de gens, des gens inconvertis aussi. Ils ont besoin de trouver le véritable sens à leur vie. Et à côté de ça, vous avez toute une faune de gens qui connaissent beaucoup la Bible, qui connaissent bien la Bible. Nous aussi, on connaît bien la Bible, c'est sûr, mais on sent que ce qui est important, c'est pas de connaître la parole de Dieu, mais que l'amour que nous avons pour Dieu nous suscite en nous ce désir de connaître Dieu. Mais dire, voilà, je sais pédaler à vélo, et puis je peux faire de ma vie ce que je veux, puisque je sais pédaler en vélo, puisque je sais fonctionner avec la Bible. On voit que cet homme, au verset 25, même en voulant coincer Jésus, il avait quand même ce problème. Il sentait bien que la vie éternelle, cet héritage de la vie éternelle, il ne l'avait pas. Vous voyez, il y a quelque chose de bizarre, c'est que on peut connaître beaucoup, comme tous ces docteurs de la loi de l'époque, et ne pas connaître le Seigneur. Alors il y en a qui sont venus le voir. Par exemple, le jeune homme riche, il dit, mais j'ai tout fait depuis ma jeunesse, et j'ai toujours pas la vie éternelle, comment ça se fait ? Ils n'ont pris la parole de Dieu que comme un système de commandement d'homme qui donne une certaine vie vertueuse. Et ça c'est vrai, et c'est vrai pour les chrétiens, et c'est vrai pour beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Et on sent que ça peut être un piège, pour moi comme pour vous. Oh, je ne me fais pas d'inquiétude pour vous. On est assez accroché à l'amour de Dieu pour ne pas se laisser séduire par ce système. Mais ça vient. On voit ce genre de choses un peu partout. On voit, il y en a un autre qui avait dit ça aussi. Il est venu de nuit voir Jésus et dit, mais enfin, Rabbi, on se rend bien compte que tu viens de Dieu, c'est pas possible. Et on a l'impression qu'il va poser la question, et il n'a même pas le temps de poser la question, que Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, celui qui naît d'eau et d'esprit ne peut pas connaître, ne peut pas connaître la vie éternelle, ne peut pas connaître. Je ne peux pas revenir dans le sein de ma mère et renaître, enfin, c'est pas possible, je comprends pas ce que tu veux dire. Et puis j'ai dit, mais tu comprends rien, tout ça? Tu comprends pas toutes ces choses? Il faut naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire il faut se repentir, il faut faire comme les prosélytes, vous savez, les juifs, quand ils avaient un prosélyte d'Antioche ou d'ailleurs, un grec qui voulait devenir juif, enfin judaïsant, il fallait qu'il se plonge dans l'eau pour renaître comme juif. Bah, ça, c'est impeccable, ça, comme image. Et puis, Jésus dit, bah, il faut que tu repentes de ton péché et que tu puisses renaître ensuite d'esprit. Lorsqu'il y a de l'enthousiasme en nous, cet enthousiasme peut être mal dirigé. En général, il est bien dirigé quand c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Et je pense que le Saint-Esprit vous anime, n'est-ce pas ? Eh bien, il nous aide à être toujours titillé par les liens. Hein? Soyons encouragés à avoir des liens fraternels, des liens avec les versets. Ils nous stimulent et ils nous rendent fous à un moment donné. Fous de Dieu, fous des autres. Hein? Voilà. Je me permets de vous demander, on va prier maintenant et puis voilà. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce de ta parole. La seule parole qui puisse nous transmettre des choses qui nous émerveillent. Ces histoires que tu nous as racontées, ces liens que nous voyons dans tous les versets de la Bible, qui nous amènent à comprendre que tu es bien d'une dimension extraordinaire, que tu es celui qui veut nous révéler beaucoup, qui ne veut pas simplement nous voir dans un véhicule, vers un objectif que nous avons décidé seuls, mais vers un objectif que tu désires pour nous, celui de la cité céleste, celle dont tu es l'architecte et le constructeur. Nous ne voulons pas être comme beaucoup d'aujourd'hui qui pensent pouvoir réussir leur Jéricho et qui se trompent tellement qu'ils en mourront. Seigneur, permets que beaucoup puissent être enthousiasmés par ta personne, et moi en premier. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir sauvé par grâce, par le sang précieux de Christ. Amen.